Salut tout le monde, prise 2, la lame de feu qui est partie. Mais plutôt bizarre. En tout cas, si elle repart, j'arrête pas, là. Hey, salut, bienvenue à Angle Mort. Petit lendemain de veille, hier c'était ma fête. C'était cool, j'étais allé voir le show, mais j'étais avec Dom Pack manger au Saint-Hubert, qui est en face de l'Olympia. C'est bon, Saint-Hubert, on dira ce qu'on veut, c'est très très bon, très 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 bon. Alors, c'était parfait. En passant, il n'y a pas d'autre choix hein, autour, il faut bien comprendre. Là, les restaurants dans ce coin-là, c'est hallucinant. Et puis, après ça, on est allé voir Richardson Zephyr, Zéphyrin le canard. Puis, c'est très bon, c'est super bon. Le gars, il est vraiment dans un registre très, je dirais, naïf, tu sais, dans le sens que c'est très anecdotique, mais c'est très efficace. Ça dure 1h30, 90 minutes, très dense. C'est impressionnant, pareil, hein? Du monde, là, qui leur texte, qui savent pendant 1h30, là, mot à mot. Moi, ça m'impressionne. J'ai jamais réussi à faire ça. Un show d'une heure, je vais le savoir, mais... À 1h30 non-stop, tout, là, moi, je trouve ça... C'est faisable, là, tu sais, mais c'est comme... C'est pas rien. C'est... À chaque fois, ça m'impressionne. Ça fait que c'est très bon, je vous le recommande. Je sais pas si c'est dans les meilleurs shows, parce qu'actuellement, il y en a plusieurs qui sont sortis, dont je vous ai parlé de Cathy Gauthier. C'était vraiment très, très hot. On m'a dit que Mariana Mazza, c'est très hot. Philippe Laprise a sorti un show qui paraît qui est très, très bon. C'est comme... Tabarouette. Ça n'a jamais été aussi compétent, le domaine de l'humour. Il n'y a jamais eu autant d'humoristes forts. Puis en plus, c'est que souvent, ils sont jeunes. Ils arrivent, ils commencent. C'est leur premier, deuxième, troisième show. Tu sais, c'est comme... Tabarouette, ça marche. Bref, alors, petite parenthèse là-dessus. Ce matin, je vous parle d'un sujet. C'est une réflexion que j'ai depuis... que je suis arrivé à Juste pour rire. Je suis arrivé à Juste pour rire, c'était le 11e festival. Ils sont rendus à pas loin de 40, je ne me trompe pas. Puis je me souviens parce que le slogan, c'était 11 ans fous. Donc ça m'a évidemment parlé, un excellent jeu de mots. Puis donc j'avais mi-vingtaine, début vingtaine. C'est pas clair d'ailleurs quelle année je suis arrivé. Parce que j'étais assermenté, moi, en 91. Puis c'est, me semble, cet été-là que je suis arrivé à Montréal, au mois d'août. En tout cas, ça fait 91 doses, OK? On dit à peu près ça. Et là, ben mon histoire, je pense que je vous l'ai conté à l'occasion, mais les grandes lignes, c'est que j'avais envoyé une lettre carrément à Gilbert Rozon, lui disant « Hey, je finis mon cours, j'ai lancé des spectacles d'humour, moi je veux travailler juste pour rire. » Comme ça. Puis il m'a fait venir un meeting, deux meetings. Finalement, j'étais embarqué là. Pendant trois semaines, pendant le festival, je travaillais à billetterie. C'était une humiliation complète. Je suis revenu trois semaines, puis après ça, je suis retourné m'installer. Puis là, j'étais coordonnateur à un département qui s'appelait la formation, qui avait été nouvellement faite. Donc, c'était les auditions juste pour rire, les lundis juste pour rire, les codes de l'humour. Il y avait comme cinq volets, tu sais. Puis moi, je m'occupais des soirées d'humour, les lundis juste pour rire, ça s'appelait. Puis aussi les auditions que j'avais passé des bars au campus d'université. Fait que, bref. Et quand je m'occupais des auditions juste pour rire, qui était dans le fond, j'avais calqué ce que j'avais fait moi-même à l'université. Ma prémisse, c'était qu'il y avait d'excellents humoristes potentiels qui étaient des étudiants d'université. Puis que si on allait sur le campus et on disait « Hey, juste pour rire, organise des auditions, tu pourrais faire un gala juste pour rire, on va recruter plein de talents. » Puis ça a été très apprécié par le département de la commandite qui disait tout le temps « C'est tough ». De rejoindre ces étudiants-là. À l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux ni d'Internet. Internet, c'est 95. Ça fait que il n'y avait rien de ça, tu sais. Ça fait qu'effectivement, quand tu voulais rejoindre des étudiants, ben tu pouvais passer acheter de la pub dans le journal étudiant. Moi, c'est comme ça que j'avais recruté des étudiants à l'Université Laval quand j'avais fait mes spectacles. C'était dans le journal étudiant, tu sais. Ça fait que, donc, les commanditaires trouvaient ça hot qu'au lieu de faire encore des... je l'ai lundi juste pour rire à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Montréal, dans des bars. C'était comme, hey, nous autres, on trouve ça hot. Donc, le département de commandite aimait mon projet. Et là, ça a commencé à être compliqué. Puis, c'était comme, ouais, mais là, le commanditaire, si, ça. Puis, je faisais, là, je veux dire, ça les intéresse-tu ou pas, là? La fille, elle s'appelait Ninon Lorrain. C'était elle qui était comme, si tu veux, mon point de contact avec le département des commandites. Puis très tôt, j'avais eu cette réflexion-là où je m'étais dit, tous les efforts que je mets, puis les bâtons que j'ai dans les roues, c'est pas avec l'extérieur. C'est pas j'ai de la misère avec le campus, L'Université de Montréal n'est pas intéressée. J'essaie de faire un deal avec le Journal de Montréal, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui était la mise en œuvre, mettre de l'avant mon projet, j'avais évidemment des fois des oui, des non, mais là, tu sais, il y avait tout le temps comme un plan B ou quelque chose. Bref, ça avançait. Puis quand est-ce que ça bloquait, c'était à l'interne. C'était, comment dire, ne veulent pas ça. La comptabilité dit qu'il faudrait qu'on passe tout à la fin. Puis à un moment donné, j'ai fait, coudonc, c'est-tu normal que je me batte plus, à même juste pour rire, qu'avec tout le reste de l'univers? Comment? Eh bien, savez-vous quoi? Cette règle-là a perduré toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Dans une énorme majorité des cas, t'es tout le temps en train de te battre à l'interne plus qu'à l'externe. Ça n'est... Puis là, je sais que je vous parle, là, puis je suis certain qu'à peu près tout le monde fait comme, aïe, aïe, c'est exactement ça où je travaille. C'est comme, il y a tout le temps quelque chose qui vient faire en sorte qu'on pourrait aller de l'avant, puis finalement, ça n'a pas lieu, ou c'est tough, ou finalement, personne ne s'en rend compte, mais on est bien moins motivé parce que c'est tout le temps genre, bon, on le sait qu'on va mettre tant d'heures pour que finalement, ça donne 40 % du résultat. C'est tout le temps de même. Quelques très rares entreprises réussissent à éviter ça, comme quelques très rares entreprises et individus contournent la loi de Pareto, c'est-à-dire le fameux 80-20, qui dit qu'on place 80 % de nos énergies sur seulement ce qui fait 20 % de la différence. Que 80 % de nos revenus vient de 20 % de nos clients, mais on passe plus de temps avec les chialeux, qui, règle générale, ne rapportent rien. C'est tout le temps de même. C'est quand tu réussis à inverser ces proportions-là, c'est hot. Ça veut dire que tu as réussi à changer l'ordre des choses, normal. Parce que l'ordre des choses normales, on est mal fait, mais c'est ça. Bon, mais quand tu réussis à... Bougez pas. Donc, excusez-moi, il a fallu que je fasse une pause. Ça fait que c'est ça. Donc, la loi de Pareto, tu peux l'inverser. En tout cas, moi, je trouve que je l'ai inversé en grande partie. J'ai vraiment réussi à dire, sais-tu quoi? Moi, maintenant, je place le gros de mes énergies sur ce qui fait la différence. C'est ça, grosso modo, l'idée. Ça fait qu'il y a des entreprises qui ont réussi à dire, « Hey, on va essayer d'éviter que le combat soit à l'interne. » Puis l'autre affaire que je me rends compte, c'est que en politique, c'est encore plus flagrant. Pense à ça. Comme là, vas-tu asseoir, là, il va y avoir un débat pour la chefferie, la course à la chefferie du Parti conservateur. Ils sont 6, puis ils vont s'engueuler entre eux autres pour savoir c'est qui. Puis je dis pas que c'est pas normal. Il n'y a pas d'autre solution, mais il reste que l'observation, c'est ça, pareil. Puis quand ça va être réglé, OK, là, il y a des Canadiens qui vont regarder ça, qui sont pour ou contre ce qui se dit, pour ou contre les conservateurs, mais ça reste un combat d'interne. Puis après ça, il va y avoir un gagnant qui va inévitablement se présenter à la prochaine élection fédérale, où là, il va y avoir un autre niveau de combat à l'interne. Ça va être encore des Canadiens qui vont dire, oui, Trudeau ou un autre, les libéraux, les conservateurs, l'autre bord, puis tout à l'avant. C'est comme si on s'en sort pas. Le seul exemple que j'ai actuellement qui est pur, un pur exemple que c'est un combat à l'externe, c'est la guerre en Ukraine. Ou toutes les guerres. Où là, de façon claire et définitive, c'est clair que tu dis, OK, là, on a un ennemi. Il n'y a personne en Ukraine qui peut dire, ben personne, ça dépend encore. Il y en a peut-être qui sont pro-russes, c'est une autre question, mais je veux dire, disons, c'est là où les aiguilles sont le plus l'autre bord, c'est dans le cas d'une guerre. Où là, il y a tout un pays qui se dit, hey, là, on se fait envahir, ça fait qu'à quelque part, OK, go, puis, tu sais, là, il n'y a plus d'histoire, t'es-tu pour ou contre les vaccins, là? Mais ça me fait capoter à quel point il y a des exemples, puis on se rend compte que. Puis là, c'est à se demander si c'est pas la même affaire à l'interne dans nos amis, tu sais. On est-tu en train de se chicaner principalement sur des désaccords qu'on a avec nos amis? Je sais pas, peut-être, sans s'en rendre compte. Bref, c'est quand même spectaculaire de voir à quel point... Mais en entreprise, moi, ça m'a choqué à l'époque. C'est vraiment... D'ailleurs, beaucoup des choses que j'ai apprises dans la vie, en business, sont en regardant des gens ou des organisations puis de me dire quoi ne pas faire. Vraiment. Il y a vraiment... Moi, en conférence, là, j'ai des exemples en disant hey, « ça, c'est une erreur de telle affaire et tout. » Puis ces erreurs-là, c'est parce que je les ai vues. Puis j'ai vu qu'est-ce que ça causait comme problème puis qu'ils deviennent malheureusement... souvent des conséquences invisibles. C'est-à-dire que l'erreur que tu constates puis que tu fais une corrélation entre cette erreur-là puis des résultats qui sont vraiment en poche, si l'entreprise juge que ces résultats-là, ben c'est à peu près ça qu'on peut avoir. Il n'y a aucune possibilité de correction. Aucune. Si tu te dis, bon, voici notre chiffre d'affaires, voici nos codes d'écoute, on pense que c'est ça. C'est ça. Dans le marché actuellement, nous autres, notre place, c'est ça. Puis tu réalises pas comment, à l'interne, t'as une culture qui t'empêche d'aller ailleurs, ça peut pas bouger. C'était ma petite réflexion aujourd'hui et on se reparle demain. Bye-bye.